France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. L'Assemblée nationale a donné son feu vert cette nuit pour la prolongation possible des restrictions sanitaires en France jusqu'à la fin du mois de mars en 2021. Un texte controversé qui donne les moyens au gouvernement de fermer par exemple les restaurants ou de restreindre les déplacements. Une adoption tardive hier par 26 voix pour, 17 contre, 3 abstentions, sans les suffrages de la gauche et de la droite. Une adoption à l'Assemblée alors que les indicateurs Covid-19 virent au rouge en France. Mais en attendant de les confirmer, l'exécutif accorde un sursis à Paris, ainsi qu'à Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse et Saint-Étienne. Le ministre de la Santé a précisé hier que la capitale et sa proche banlieue avaient franchi les 3 seuils inquiétants. Si cela continue ce week-end, Paris et sa petite couronne passeront alors en alerte maximale lundi, sans pour autant fermer les restaurants. Voilà ce qu'a précisé Olivier Véran. Si les professionnels s'inquiètent pour leurs établissements, des médecins à l'hôpital s'alarment également. La situation, disent-ils, ne va pas s'améliorer lors des 3 prochains jours. L'État empoche près de 2,8 milliards d'euros grâce à la 5G. C'était la fin hier des premières enchères pour les opérateurs et c'est Orange qui emporte le plus de blocs en jeu. Emmanuel Macron dénonce l'ingérence de groupes djihadistes dans le conflit dans le Haut-Karabakh. Le président français a lui-même évoqué 300 combattants venus selon lui de Syrie en transitant par la Turquie pour aller dans cette région d'Azerbaïdjan peuplée d'Arméniens. Il va donc appeler le président turc Recep Tayyip Erdogan pour lui réclamer, dit-il, des explications. Emmanuel Macron demande également à l'OTAN de regarder en face les actions d'Ankara. Hier, 2 journalistes du quotidien Le Monde ont été blessés dans le Haut-Karabakh. Un avion sanitaire français doit y être envoyé pour les rapatrier. Emmanuel Macron, encore, qui participe au Conseil européen depuis hier à Bruxelles. Les dirigeants de l'Union ont accepté de sanctionner le régime au pouvoir en Biélorussie, mais pas le président contesté, Alexandre Loukachenko. La liste comprend une 40aine de noms.
L'analyse de l'actualité internationale, Christine O'Krent.
Tout va si vite. Comment comprendre les palpitations d'un monde où tant de protagonistes interviennent et plus seulement les États, où tant d'enjeux s'entrechoquent, où tant de progrès et de reculs s'entremêlent? Plus que jamais, écoutons les meilleurs experts en France et ailleurs.
La pression monte pour trouver un vaccin contre la Covid-19. La Big Pharma travaille sans relâche, les laboratoires sont au coude à coude. Qui gagnera la course? Affaires étrangères, ce samedi à 11h sur France Culture et sur franceculture.fr.
There is ground, underground. Le nouvel album de Régis Boulard et Louis Solaire. Une architecture électroacoustique où des formes voluptueuses se dessinent et flirtent avec les pulsations. Une nouveauté de la collection Signature Radio France.
6h03, vous écoutez France Culture, c'est l'heure du monde vivant de Bruno David avec l'oursin mou au menu ce matin.
La Statue de la Liberté porte haut son flambeau à l'entrée du port de New York. Offerte par la France à l'occasion du 100e anniversaire de l'indépendance de l'Amérique en 1886, cette statue, devenue universelle, est due au génie du sculpteur d'origine alsacienne, Auguste Bartholdi. Les Lyonnais doivent également à Bartholdi la majestueuse fontaine qui orne la place des Terreaux devant l'hôtel de ville. Une fontaine en forme de quadrige, les chevaux écumants tirant un char représentent les 4 grands fleuves de France, la déesse grecque de la mer les guide. Le regard du promeneur se porte vers les chevaux tant leur posture évoque une cavalcade effrénée. À tel point qu'il oublie de s'attacher à certains détails, les sabots munis de griffes par exemple, mais également les roues du char. Déplaçons-nous vers l'arrière pour les observer. Les moyeux sont des gastéropodes marins et les roues elles-mêmes sont des oursins. Oui, des oursins. Mais des oursins débarrassés de leurs piquants et aplatis comme des galettes. À première vue, ce sont donc des oursins martyrisés. Peut-être pas tant que cela. Un peu d'histoire naturelle pour bien comprendre. Tous les amateurs d'oursinades le savent bien, sous leur toison de piquant, les oursins ont un squelette rigide. Ce squelette est constitué de plaques calcaires jointives. Bien collées les unes aux autres, elles forment une sorte de boîte robuste plus ou moins hémisphérique. C'est en tout cas la règle chez les oursins sur lesquels on se pique les pieds. Mais il existe, dans l'obscurité des profondeurs de l'océan, entre 500 et plusieurs milliers de mètres sous la surface, d'autres oursins plus curieux. Chez ceux-ci, les plaques du squelette sont disjointes, ou plus exactement, elles sont liées par du collagène. Le collagène, cette protéine magique qui fait que notre peau reste souple, enfin jusqu'à un certain âge. Tout comme chez nous, le collagène de ces oursins confère une souplesse à leur squelette. La boîte, au lieu d'être rigide comme chez leurs congénères, devient flexible. Lorsqu'ils sont dans leur milieu de vie, la pression interne de leur corps fait que ces oursins mous adoptent une forme hémisphérique classique. Mais lorsqu'un océanographe les sort de l'eau, ils s'aplatissent, se dégonflent en quelque sorte, et ressemblent alors à des galettes. Tiens, comme les roues du char. Dans les régions qui entourent le golfe de Gascogne, ils ont été surnommés bérets basques. Il faut dire qu'ils font jusqu'à une vingtaine de centimètres de diamètre. Autre curiosité, comme ils doivent se mouvoir sur un fond très meuble constitué d'une vase fluide, leurs piquants locomoteurs, qui se trouvent sur leur face inférieure, sont munis de petits sabots blancs très élégants, on dirait de la porcelaine. Des sabots ? Comme ceux des chevaux alors ? Oui, mais là, ce sont les piquants qui portent des sabots, et non les sabots qui portent des griffes, comme ceux des chevaux de La Fontaine. L'Alsacien Bartholdi ne pouvait pas se douter qu'en choisissant cette allégorie maritime, elle se connecterait de la sorte à une réalité biologique.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Réveil culturel, aujourd'hui en compagnie de Daniel Goossens, scientifique, chercheur en intelligence artificielle le jour, chez lui, même s'il est à la retraite. Daniel Goossens est dessinateur de bande dessinée d'humour le soir, et comme on est vendredi, c'est-à-dire le jour de l'actualité de la bande dessinée dans le Réveil culturel, et bien sûr, c'est bien sûr le dessinateur qu'on reçoit à l'occasion de la sortie du tome 1 de l'intégrale des histoires de Georges et lui, ces deux inénarrables romans sans inspiration, sans talent, qui partagent un bureau et des rêves de gloire littéraire. Bref, l'humour absurde entre les Monty Python et Gottlieb de Goossens tend bien ce matin, car la saison des prix littéraires s'ouvre bientôt.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Daniel Goossens.
Bonjour.
Alors Georges et lui, vos deux romanciers qui ratés, on peut le dire, qui sont inspirés par Bouvard et Pécuchet, c'est peut-être aussi l'époque qui les a vus naître dans les pages de Fluide glacial qui pourrait les mieux les définir, non ? Qu'est-ce qui se passait en 1993 ? Ça commence en 1993 ?
Oui.
Qu'est-ce qui se passait à cette époque dans le milieu littéraire français pour que naisse dans votre esprit cette envie aussi de parler de façon détournée du monde littéraire ?
J'ai travaillé à Fluide glacial mensuellement, et donc en dehors de cette collaboration régulière, je notais des choses que je trouvais plus spéciales, plus particulières, peut-être difficiles, je ne savais pas encore. En me disant, je ferais ça dans une série. Ça prenait toujours la même forme, c'est-à-dire deux écrivains, ou en tout cas un tandem, avec des idées, autour d'idées littéraires, des jugements de valeur, voilà, des choses de ce genre. Donc c'était un petit peu indicible, hein, j'ai pas de cible identifiable dans ces trucs-là, et j'aborde un peu tous les thèmes. Donc, c'est pas lié à un contexte culturel de l'époque.
Littéraire. Ouais, puisqu'ils sont écrivains.
On cite toujours Bouvard et Pécuchet. Donc, il y a quelque chose de correct. Mais il y a une grosse différence. Ils ont pas du tout les mêmes caractères que Bouvard et Pécuchet, Georges et Louis. Louis, c'est un type qui est collé à son affectif. Il explose toujours avec des réactions extrêmement affectives. Il est très loin du recul de la compréhension. Ce que n'ont pas Bouvard et Pécuchet, eux, ils sont toujours dans l'échange intellectuel profond, que eux veulent profond.
Ouais,
donc le décalage comique vient de là. C'est-à-dire, le lecteur sait que c'est pas profond, mais les personnages croient qu'ils sont profonds. Alors que dans Georges et Louis, Louis est un enfant. J'utilise quelque chose qui pourrait s'apparenter à un procédé, le fait de faire réagir un personnage comme un enfant. L'enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas de recul et qui fonce dans ses combats affectifs.
Il est persuadé qu'il va devenir un grand écrivain et qu'il va décrocher les plus grands prix.
Oui, et puis surtout, je suis retombé sur des histoires que j'avais complètement oubliées. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est ténu comme prétexte de faire l'histoire. Et puis, ça marche quand même. Je me souviens d'une histoire que j'avais complètement oubliée, où Louis a lu dans un bouquin une phrase, un jugement de valeur, justement, très littéraire. Si je me souviens bien, ça dit quelque chose du genre « L'artiste occidental imite la nature alors que le chinois exprime les sentiments qui en résultent ». Alors je ne sais pas, j'avais dû lire, pour répondre à votre question de départ, j'avais dû lire ça dans un bouquin. Et ça tilte chez moi, genre le truc, je me dis « Mais pourquoi les gens veulent avoir des sortes de jugements de valeur fermés, carrés comme ça ?» Ou dans cette phrase, on a l'impression que le type qui l'a écrite voulait... revaloriser l'art oriental par rapport à l'art occidental. Enfin bon, c'est un combat possible, pourquoi pas, mais on peut en faire des millions de combats de ce genre. Et ça me suffit, moi, pour avoir envie de tourner le truc en dérision. Et donc, le procédé, c'est Louis qui est catastrophé en apprenant cette nouvelle, quoi. Et il se met à pleurer, et puis l'autre le console, en disant que les Chinois, ils sont pas non plus... c'est aussi des faces de citron. Enfin, il va chercher partout ce qu'il peut pour lui relativiser la chose. Enfin bref, quoi. Voilà un prétexte qui a l'air très ténu d'histoire et qui faisait, pour moi, l'intérêt de Georges et Louis, d'entreprendre ce truc.
Daniel Goossens, c'est un fil tenu parce que vous vous moquez de ces deux personnages, de ces deux tandems, ce sont des écrivains ratés, il y a une complicité avec le lecteur, et le lecteur sait très bien qu'ils ne produiront jamais une œuvre littéraire digne de ce nom, et puis leur inculture est là, mais vous trouvez le moyen de les rendre humains, de ne pas être le grand intellectuel qui se moque de ceux qui osent rêver d'être écrivain.
Exactement, mais bravo, moi je suis content, effectivement, il ne s'agit pas de se moquer d'écrivains ratés, pas du tout, ce n'est pas le sujet. Hein. Ceci étant dit...
ils sont ratés.
C'est difficile de savoir de quoi on se moque. Il y a une vision usuelle de l'humour, du comique, qui hiérarchise, qui met tout en bas de l'échelle des formes dites vulgaires, le fait de se moquer du physique, par exemple. L'ironie. L'ironie, c'est, ou le sarcasme. Alors, le sarcasme, c'est carrément une manière méchante de se moquer. Et puis, on progresse, il y a la dérision, l'absurde, etc., jusqu'à l'humour, où, qu'on met en général tout en haut, en se disant, l'humour se moque de rien. L'humour, c'est quelque chose de très subtil, etc. Et donc, moi, j'ai pas cette vision-là. Moi, j'ai une hypothèse, toujours des hypothèses.
Hein. Tant que bon scientifique que vous êtes, Daniel
Goossens.
Voilà, Goossens.
Exactement. C'est le travail intellectuel. J'ai une hypothèse qui est que dès qu'il y a du rire, si on fait rire, c'est qu'on se moque de quelque chose. Et alors du coup, il faut trouver de quoi. Et c'est ça qui fait la hiérarchie éventuelle, c'est-à-dire si on se moque du physique, effectivement, on est en bas de l'échelle. Et donc, dans Georges et Louis, je ne me moque pas d'écrivains ratés. Je me suis rendu compte même, j'aborde souvent la religion, l'armée, tout ça, mais je ne me moque ni de la religion, ni de l'armée.
Mais là, en l'occurrence, c'est en creux une critique du milieu littéraire, ouais. Du marché du livre en France,
non,
de ce qu'on attend des écrivains.
Je ne me moque pas de la littérature non plus. Après avoir vraiment...
Si, quand même un peu, non ?
Non, je ne me moque pas de l'armée quand j'aborde l'armée, je ne me moque pas de la religion quand j'aborde la religion. Je me moque pas de la littérature quand j'aborde la littérature. Je me moque pas du cinéma quand j'aborde le cinéma. Je pourrais foncer tout de suite à, mais j'aimerais bien essayer de voir si le cheminement est compréhensible. D'abord, effectivement, comme vous l'avez dit, je suis un peu un intellectuel. C'est-à-dire, je sais différencier le travail intuitif de quand on crée une BD du travail intellectuel. C'est vraiment pas la même chose. Quand je relis Georges et Louis sans a priori intellectuel, je me dis, je me suis amusé. Je relis, tiens, je sais pas de quoi je me suis moqué. Je me suis amusé et j'ai essayé d'amuser des gens. Je me rends compte à l'arrivée qu'il y a des gens que ça amuse, puis il y a des gens que ça amuse pas du tout. Et je me dis, comment est-ce qu'on pourrait rendre ça compréhensible pour faire en sorte que ceux que ça amuse pas comprennent que finalement... il faut pas écouter son intuition. L'intuition, elle dit pas la vérité. Les humoristes n'aiment pas trop faire de travail intellectuel. En général, ils valorisent l'intuition et ils préfèrent pas aller plus loin que ça. Par peur de rentrer dans des méandres intellectuels stupides, hein, qui sont trop loin
de ce qu'ils pratiquent. Et finalement, moi, j'ai pas trop peur, parce que ça a été un second métier. Mon intuition me donne pas la vérité, mais elle me donne des pistes. Ça marche comme ça. Quand on travaille intellectuellement, on sait que l'intuition a toujours tort. Mais elle est indispensable, elle donne les pistes de départ. Et puis ensuite, on expérimente et au bout d'un certain temps, on construit une nouvelle intuition. Et voilà, comme ça, d'intuition en intuition, qui se succèdent les unes aux autres, on finit des fois par avoir des choses un petit peu stables.
Et aujourd'hui, avec le recul, comment vous les présentez
Eh ben justement, alors voilà, je me suis rendu compte avec le temps que Louis, ce qui m'excitait chez Louis, c'était qu'il n'ait pas de recul du tout et qu'il se lance dans des ambitions de contrecarrer des jugements de valeur, des situations affectives. La littérature est bourrée de prises de position intimidantes, finalement. Donc c'est pas la littérature dont je me moque, c'est plutôt de religiosité ou d'illumination de littéraire, soit auteur, soit consommateurs de littérature, qui sont dans des attitudes, peut-être pas religieuses, mais illuminées, en tout cas, sans recul possible. Il est difficile de parler avec quelqu'un qui est fasciné par une façon de voir le monde, littéraire. La littérature, c'est plein de lyrisme. Et le lyrisme, ça sert en littérature, mais ça sert aussi dans la pub. On vend n'importe quoi avec le lyrisme. Donc c'est marrant de se moquer du lyrisme et du fait que ce soit une technique de vente de n'importe quoi.
J'ai jamais eu cette lecture, le lyrisme. Il va falloir que j'y réfléchisse un peu avant de vous répondre, Daniel Goussens. Oui, vous restez avec nous.
Oui.
France Culture, le réveil culturel, Toufik Hakem.
Nous marchons dans la ville, nous croisons des regards, et ceci définit notre présence humaine. Dans le calme absolu de la fin de semaine, nous marchons lentement aux abords de la gare. Nos vêtements trop larges abritent des chairs grises, à peu près immobiles dans la fin de journée. Notre âme minuscule, à demi condamnée, s'agite entre les plis et puis s'immobilise. Les hommages à l'humanité se multiplient sur la pelouse. Ils étaient au nombre de 12. Leur vie était très limitée. Nous avons existé, telle est notre légende. Certains de nos désirs ont construit cette ville. Nous avons combattu des puissances hostiles. Puis nos bras amaigris ont lâché les commandes. Et nous avons flotté loin de tous les possibles. La vie s'est refroidie. La vie nous a laissés. Nous contemplons nos corps à demi effacés. Dans le silence émergent quelques datas sensibles. Les hommages à l'humanité.
Les hommages à l'humanité. Michel Houellebecq, que vous avez reconnu, Daniel Goussens.
Ouais.
Vous êtes un grand lecteur, vous aimez vraiment la littérature. Est-ce que le Daniel Goussens, scientifique et dessinateur d'humour, est aussi un féru de littérature?
Non, j'ai vraiment lu comme un blaireau moyen, les trucs qui dépassent, que tout le monde connaît. Voilà, j'ai lu des trucs comme ça, ça m'attire pas trop, c'est vrai, ça m'attire pas tellement. En lisant, j'ai toujours préféré lire des documents journalistiques, des trucs près du réel.
Ouais.
On disait tout à l'heure, je ne sais plus quoi, mais en tout cas, ça me permet de dire, je donne l'impression de me moquer de tout, par exemple. Ça, c'est une image que je donne, mais beaucoup de gens dans la dérision que je pratique donnent le sentiment qu'on respecte rien, on se moque de tout, alors que c'est pas le cas. On se moque, on n'a pas de sujet tabou, disons. On peut aborder n'importe quoi. Il y a des gens, par exemple, qui prétendent que l'humour doit se moquer de ce qui est puissant. Alors ils vont se moquer des riches, ils vont se moquer du capitalisme libéral, ils vont se moquer de l'armée, ils vont se moquer de la religion, mais de la religion comme une force maléfique qui fait des massacres, etc., etc. Et finalement, moi je me rends compte, j'ai pas de cible concrète comme ça. C'est de l'absurde, ça aborde n'importe quoi, et à tout moment, je pourrais donner l'impression que je me moque de choses sacrées ou de la faiblesse. Si je me moque de Jésus, dans une BD, il y a les moines, par exemple, il y a une histoire dans l'intégrale sur des moines. Les moines, c'est pas la puissance, c'est la faiblesse. Et en fait, je me demande, est-ce que je suis un salopard? Est-ce que je me moquerais, moi aussi, de choses dont on ne devrait pas se moquer? Et bon, au recul, en réfléchissant, non, je me rends compte que ce dont je me moque, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, une sorte de comportement universel où des individus se ferment. En science, on appelle ça des scientistes, hein, les gens qui se ferment sur la science et l'idée que rien d'autre n'a de valeur pour comprendre le monde.
Mais voyons voir, par exemple, est-ce que vous vous reconnaissez dans Louis et Georges? Est-ce que vous vous moquez aussi de vous-même à travers leurs histoires?
Oui, parce que je suis comme Louis, c'est-à-dire...
C'est-à-dire que...
Je suis assez affectif, je suis assez emballé facilement. Hein, je suis une sorte de crétin affectif qui s'emballe facilement sur des... D'ailleurs, là, je suis en train de m'emballer sur mes hypothèses. Heureusement, mon côté intellectuel me fait toujours comprendre que tout ce que je balance là, tout ce que je dis, tout ce que je raconte, c'est des hypothèses. C'est toujours comme ça. En sciences humaines, il n'y a que des hypothèses.
Non, mais là, par exemple, vous racontez la misère sexuelle à travers vos personnages.
Ouais, je me souviens plus, c'est quoi l'histoire?
Bon, c'est quelqu'un qui va voir sa mère pour lui parler de ses problèmes sexuels et qui vole de l'argent à sa mère pour aller voir les prostituées.
Voilà. Donc, on sent en trame, c'est pas le sexe, hein, qui m'intéresse dans ce genre d'histoire. On sent en trame des sortes de jugements de valeur implicites qui sont bravés, hein, on pourrait dire, dans cette histoire. Le comique, j'imagine, marche sur la surprise. On est surpris que ce mec se mette, alors que ça commence dans des ambiances confidentielles, littéraires.
On est dans un bureau.
Oui, mais là, dans cette histoire, il est chez sa mère, il pleure. Enfin, il y a quelque chose d'affectif quand même. Et puis, cette histoire se déroule en une succession de choses. Sa mère lui dit « Bon, toi, ça suffit maintenant, tu vas pas me prendre de l'argent dans mon sac à main, tu t'es reproduit, ça suffit. » « Mais maman, mais d'où t'as vu que je me suis reproduit ?» Enfin bon, des trucs de genre, j'adore ce genre de petites scènes comme ça, où les gens réagissent sans respecter les codes de politesse. La brave pratiquement à chaque réplique. Donc je pense que la cible de moquerie, c'est ça, c'est les fonctionnements sociaux, où on est caché derrière des...
Et ça se concrétise comment? Par le dessin? Est-ce que Daniel Goossens, vous avez vraiment opté pour ce dessin qui n'est pas la caricature? Il n'y a pas les gros nez, c'est pas non plus le dessin réaliste, on est entre les deux.
Ouais. C'est un semi-réalisme, ouais. J'aime bien ça, les scénaristes, parce que ça me permet de fixer les situations, les ambiances. J'aime bien, quand je fais une histoire de militaire, qu'on ait l'impression de lire un Bogdani, ouais. Un truc de genre, un vrai, quoi. Donc j'aime bien maîtriser les décors. Et puis, mes personnages, par contre, eux, ils sont caricaturaux. Mais ils ont quand même des pantalons défraîchis. Tiens, j'aime bien ça. Cette cible dont je parle, ça a l'air de tenir longtemps, ça, cette cible, l'illumination, voilà. Le fait que tous, on s'illumine brutalement sur des pensées. Toutes les disputes, tous les énervements collectifs viennent de là. On ne lâche pas le morceau. François Rollin sort un bouquin bientôt sur la bêtise. Et lui, il définit la bêtise, non pas comme l'erreur, mais comme l'erreur qui persévère. Et comme il m'avait invité à illustrer son bouquin... ça a fait tilt en moi. Je lui dis, tiens, c'est bizarre qu'il soit focalisé là-dessus. Lui, c'est l'erreur qui persévère. Et finalement, l'erreur qui persévère, c'est aussi un peu l'illumination, je trouve. L'illumination, c'est-à-dire le fait d'un seul... Enfin, tous comme ça, d'avoir la tendance... Moi aussi, là, je suis en train de me focaliser, mais heureusement, j'ai ce recul de me dire, c'est que des hypothèses. Tout va bien, si jamais j'apprends... si Tufik Hakem me dit, non, moi, j'ai lu le bouquin, j'ai pas vu ça, j'ai vu autre chose, bah, je pourrais l'écouter, je pourrais lui dire, ah... C'est quoi que vous avez vu? Peut-être que je devrais modifier mon hypothèse, etc.
Vous êtes célébré par vos pairs, vous avez déjà été primé par les plus hautes distinctions qu'un dessinateur d'humour ou de bande dessinée peut rêver de décrocher un jour, c'est-à-dire le Grand Prix d'Angoulême, vous l'avez eu en 1997, c'est bien ça?
Oui.
D'ailleurs, c'était la belle époque de Georges Elvy.
Ouais.
Vous n'avez pas un grand succès commercial, comme on
non,
dit de nos
ouais.
jours.
Pas un petit non plus.
Ouais.
Un succès, comment on dit
Comment vous le vivez, Daniel Goussens?
Ah mais pas rien de particulier, c'est-à-dire... Je vous avais dit, je notais des idées à une époque dont je me disais, ça c'est quand même assez particulier, segmenté j'imagine on dirait.
Ouais, dans aujourd'hui.
La pub. Donc je m'attendais pas à ce que beaucoup de gens soient sensibles à ça. Qui a envie de voir une dérision qui a comme cible de moquerie ce genre de choses dont je parlais, les illuminations affectives. Louis, c'est ça, hein, c'est un illuminé affectif. C'est-à-dire, quand il commence une histoire, il est persuadé de son sujet. Il y en a une, on parlait de Flaubert, c'est Madame Bovary. Hein, Madame Bovary qui veut réussir dans l'informatique. Et donc, il est content de son sujet et il y fonce, mais que de façon affective. C'est une
vous
tornade
beaucoup,
à Louis.
Vous parlez beaucoup des histoires, c'est-à-dire de vos idées, de vos dialogues, des personnages, rarement de votre trait, alors que tout le monde vous considère comme un des plus grands dessinateurs français.
C'est gentil. C'est...
Non mais ça, vous le savez ça, Daniel Goussens.
Bah, en tout cas, je sais que j'aime bien dessiner, voilà, bon. Ça je le sais.
Et comment, alors justement, vous qui êtes aussi scientifique, est-ce que votre dessin est un dessin qui fait la synthèse entre tous les dessinateurs que vous avez aimés, Gottlieb en premier, ou est-ce qu'il s'en éloigne? Est-ce qu'il est...
Non, non. Ouais. Non, il y a du Gottlieb dedans. Il y a aussi beaucoup de Franquin, alors que Franquin, c'est pas du tout le même humour. C'est Gaston Lagaffe, c'est un gaffeur.
Ouais, mais pour les ambiances de bureau, effectivement, on pense tout de suite à Franquin.
Oui, c'est vrai, ouais. Mais disons que il aborde jamais de thèmes genre littérature. Il fait pas de dérision, de fonctionnement affectif et tout ça, Gaston. Hein, c'est un truc.
On parle de trait là. Hein.
Ah oui, pour le trait, oui. Ouais. Alors là, Franquin, c'est une fascination pour moi de tout temps. C'est un dessinateur extraordinaire, Franquin, extraordinaire.
Merci Daniel Goussens d'être passé ce matin.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Et si vous n'avez pas encore lu Daniel Goussens, une manière de plonger dans son univers, dans son monde décalé, c'est bien sûr cette intégrale de Georges et lui, ces deux personnages, ces deux anti-héros, ces deux écrivains ratés. Ça sort chez Fluide Glacial dans une très très belle édition. Le tome 1 est déjà en vente et pour le tome 2, je suppose qu'il faut attendre Noël ou l'année prochaine, Daniel Goussens.
En tout cas, oui, ça suit parce que j'ai vu la couverture du tome 2, donc...
Tout va bien. Merci d'être venu une fois de plus. Bonne matinée à vous tous. On se retrouve lundi. Cette émission a été préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Fabien Capel. Et on remet nos masques, c'est ça? Allez, c'est parti.
L'esprit d'ouverture.
En français, dans le texte.
C'est un texte de français, d'histoire ou de philosophie, Molière, Hugo, Yourcenar, Racine et même le général de Gaulle, lu par un grand comédien et analysé de manière experte avec le concours de l'éducation nationale. Et c'est une dictée proposée par Rachid Santaki, un exercice ludique pour se réconcilier avec l'orthographe.
En français dans le texte par Olivia Gesbert, à suivre tous les samedis à 17h sur France Culture, franceculture.fr et les réseaux sociaux.
France Culture et le Théâtre de la Ville s'associent pour faire dialoguer la science et les arts. Combat,
en public, une fois par mois à l'Espace Cardin, avec la conversation scientifique du physicien Étienne Klein.
La conversation scientifique est un jeu d'ouverture, un exercice de politesse de l'esprit. Et par amour maniaque des chiffres ronds, ça dure pile une heure.
Comment va l'homme, l'esprit des Lumières? Aimons-nous toujours la vérité? La conversation scientifique avec le philosophe Francis Wolff, ce samedi à 16h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Du sursis pour Paris et 5 autres métropoles. Les données sanitaires sont inquiétantes, mais le gouvernement veut laisser passer le week-end. Pendant ce temps, l'INSERM lance un appel citoyen pour tester les éventuels vaccins contre le Covid-19. Des médecins généralistes seront chargés du recrutement, vous l'entendrez dans ce journal. Des plaintes en cascade après les propos du polémiste Éric Zemmour sur CNews. Il s'en est pris aux mineurs étrangers isolés. Une enquête est ouverte. Réaction de la LICRA à suivre. Nous nous pencherons ensuite sur la communauté arménienne qui vit dans le Haut-Karabakh, région d'Azerbaïdjan, qui est toujours sous les feux des combats depuis une semaine. Et puis, sur cette enveloppe d'€1 milliard débloquée par Google pour des partenariats avec la presse, l'idée est de dédommager les éditeurs pour l'utilisation de leurs articles. Recherche 25 000 candidats. L'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, lance un appel citoyen pour tester un vaccin anti-Covid-19, pour aider les chercheurs. Depuis hier, chacun peut donc s'inscrire sur une plateforme pour participer à des essais cliniques, quel que soit l'âge, l'état de santé et le lieu de résidence. Pour relayer cet appel et pour convaincre, des médecins généralistes seront ambassadeurs auprès de leurs patients. Rencontre avec l'un d'eux grâce à Cécilia Arbona.
Installé depuis 2008 au port Marly dans les Yvelines, le docteur Olivier Saint-Lary mène aussi des recherches dans une unité rattachée au Centre d'épidémiologie et de santé des populations. Dans la course contre la montre, pour mettre au point un vaccin efficace, ce médecin généraliste estime qu'il est de son devoir de sensibiliser sa patientèle pour détecter des volontaires prêts à s'engager dans des essais cliniques.
Acteur de la recherche, c'est effectivement tout l'enjeu là qui se présente à nous. L'idée, c'est effectivement d'être là pour pouvoir aider, informer, profiter peut-être de la connaissance du contexte, de la situation personnelle de chaque patient. Donc oui, de ce point de vue-là, les médecins généralistes, un certain nombre d'entre eux seront ambassadeurs de la recherche sur les vaccins. En aucun cas, il est question de faire du prosélytisme ou du recrutement actif, mais vraiment d'être à l'écoute des patients. Et sur les essais de phase 3 de grande ampleur, les objectifs sont de recruter plus de 3000 patients. Il y aura en tout cas une réflexion en cours sur la possibilité d'inclure des patients dans des cabinets de médecine générale également. En tout cas, on les informe.
Ce médecin francilien prend très à cœur ce rôle d'ambassadeur de l'INSERM sur le terrain. Il a déjà convaincu 2 patients de s'inscrire sur la plateforme Covirevac.
Des tests cliniques importants, disent donc les chercheurs, si l'on souhaite sortir rapidement de la crise sanitaire liée au Covid-19. Hier soir, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait un point sur la situation épidémique du pays. Nous sommes dans une phase d'aggravation depuis plusieurs semaines, a-t-il redit, précisant que depuis plusieurs jours, Paris et sa petite couronne avaient atteint les seuils inquiétants. Le gouvernement et les maires de plusieurs métropoles, dont Paris, se donnent jusqu'à lundi pour déclencher l'alerte maximale. Jusqu'à lundi pour Paris, pour Lille, Grenoble ou Lyon, le délai est plutôt d'une dizaine de jours. Nous reviendrons sur ce point hebdomadaire d'Olivier Véran dans le journal de 7h, dans moins d'une demi-heure. Ce matin, Emmanuel Macron s'exprimera sur les séparatismes à propos de son projet de loi longuement préparé. Il sera dans la matinée dans les Yvelines, au Mureaux, avec la difficulté de ne pas cibler seulement l'islam radical. Dans le viseur notamment de l'exécutif, les écoles privées hors contrat et l'instruction à domicile qui feront partie du plan d'action présenté aujourd'hui. Le parquet de Paris ouvre une enquête après la nouvelle provocation d'Éric Zemmour. Mercredi soir sur CNews, le polémiste a qualifié les mineurs étrangers isolés de voleurs, assassins et violeurs. La justice va enquêter sur les chefs de provocation à la haine raciale et injures publiques à caractère raciste. Mais la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, veut aussi porter plainte. La présidente de sa commission juridique, l'avocate Sabrina Goldman, était hier soir l'invitée du journal de 22h de France Culture.
Bien sûr, nous faisons confiance à la justice, mais je pense qu'aujourd'hui, face à cette énième récidive de propos haineux, de propos racistes de la part d'Éric Zemmour, il n'y a pas qu'à la justice de faire son travail, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs, et notamment des médias, de prendre leurs responsabilités et de ne plus donner la parole à ce monsieur. Il ne faut plus qu'il s'exprime, mais ce que je veux dire par là, c'est que on sait très bien, lorsque on invite Éric Zemmour sur un plateau, et a fortiori lorsqu'il est effectivement chroniqueur d'une chaîne et régulièrement invité à s'exprimer, on sait, et c'est même dans ce but-là, parce qu'on sait que ça fait effectivement une certaine audience et qu'on peut en tirer profit et commerce de ses paroles, et bien effectivement, il faut prendre ses responsabilités et se dire qu'on pourra aussi avoir à rendre compte à la justice de donner la parole à ce chroniqueur de haine.
Des propos recueillis hier soir par Stanislas Vazak, la Société des rédacteurs de CNews a réagi hier. Elle condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus par Éric Zemmour sur leur antenne. Arméniens et Azerbaïdjanais restent sourds à de nouveaux appels au cessez-le-feu. Les combats se sont même intensifiés dans le Haut-Karabakh ces derniers jours. Des combattants djihadistes auraient été déployés, selon le président français Emmanuel Macron. Cette région se situe en Azerbaïdjan, mais elle est peuplée d'Arméniens. Ils ont fait sécession dans les années 90. Une question de survie pour la population sur place, comme l'explique à Nadine Epstein, Yovanes Gevorkian, représentant du Haut-Karabakh en France.
Les habitants du Haut-Karabakh, ce sont des Arméniens. 97-98% de la population est arménienne. Quand M. Aliyev dit « je vais nettoyer le Haut-Karabakh des Arméniens », ça veut dire qu'il va nettoyer le Haut-Karabakh de 97-98% de sa population. Et donc la question pour le Karabakh est une question d'existence tout simplement. Très souvent on considère le Haut-Karabakh comme un territoire et c'est de cette manière que l'Azerbaïdjan ou M. Aliyev voit la question. Or il se trouve que sur ce territoire il y a une population de 150 000 personnes qui sont arméniennes et qui disent que nous voulons exister. Mais pour exister, il faut une assise territoriale. Donc M. Aliyev veut nettoyer des Arméniens, et donc reconquérir en tant que territoire sans la population arménienne. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Nier le droit à l'existence de cette population, c'est de donner la justification que M. Aliyev utilise à chaque moment pour dire « je suis chez moi, je peux entrer chez moi ». Je peux faire ce que je veux avec la population qui vit sur ce territoire qui est le mien et donc la communauté internationale n'a pas son mot à dire. Non, ce n'est pas une question territoriale, c'est une question de droit à l'existence de la population qui vit sur ce territoire.
C'était Yovanes Gevorkian, représentant du Haut-Karabakh en France. Nous retrouvons notre envoyé spécial Claude Brouillot sur place dans une demi-heure dans le journal de 7h sur France Culture. Le Haut-Karabakh au centre des débats cette nuit à Bruxelles pour le Conseil européen. Je vous le disais d'ailleurs, selon Emmanuel Macron, président français, 300 combattants djihadistes auraient été déployés dans la région, partie de la Syrie en passant par la Turquie. La Turquie, également au centre du Conseil européen hier soir, avec la question des forages illégaux en mer Méditerranée. Message de fermeté envoyé hier par les dirigeants européens. Ils menacent Ankara de sanctions. Les 27 ont aussi donné leur feu vert hier pour des sanctions contre le régime bélarusse. Une quarantaine de responsables accusés de répression contre l'opposition ou d'avoir falsifié les résultats de la présidentielle en août. Ces responsables voient leurs avoirs gelés. Le président bélarusse contesté, Alexandre Loukachenko, lui, n'est pas sur cette liste. Terminons ce journal par un nouvel épisode de bras de fer entre Google et les grands titres de la presse mondiale. Cet épisode concerne la rémunération de leurs publications. Le géant américain vient d'annoncer le déblocage $1 milliard pour un nouveau programme. Il prendra la forme de partenariat alors que les négociations avec la France sont dans l'impasse. Explication ce matin de Benoît Grossin.
$1 milliard pour tenter d'adoucir le conflit avec les éditeurs de presse pour l'utilisation de leurs articles. Le patron de Google, en parlant d'investissement, assure qu'il s'agit pour ses partenariats d'un engagement financier, que des accords ont déjà été signés pour de nouveaux contenus avec près de 200 titres en Allemagne, au Brésil, en Argentine, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, Der Spiegel, Stern, Die Zeit en Allemagne ou encore Folia au Brésil par exemple. Que d'autres accords sont en cours de négociation avec l'Inde, la Belgique et les Pays-Bas. Le programme intitulé Google News Showcase a également été proposé en France dans le cadre des négociations difficiles sur les droits voisins qui permettent désormais aux éditeurs et agences de presse, selon la loi adoptée en juillet 2019, de réclamer une rémunération pour l'indexation de leurs publications dans le moteur de recherche. Google, sous pression, semble lâcher du lest pour European Publishers Council, Cette organisation, qui représente les intérêts de plusieurs groupes européens, estime que le géant américain contourne la législation pour une négociation équitable en dictant les termes et conditions de sa contribution à la production de nouveaux contenus en ligne.
C'était Benoît Grossin pour France Culture. Une rafale record a été enregistrée cette nuit à Belle-Île-en-Mer, 186 km/h au niveau de la pointe du Talus. Ce matin, 80 000 personnes sont privées d'électricité dans le Morbihan, en Bretagne toujours, mais aucun gros dégât n'est à déplorer a priori. La tempête Alex s'éloigne peu à peu vers le sud-est, laissant encore pas mal de pluie ce vendredi sur tout le territoire. Il fait ce matin 10 degrés à Brest, 11 à Strasbourg, 13 degrés à Paris et à Bordeaux, 18 dans la matinée à Nice. Il est 6h40, c'est l'heure du journal des idées avec vous Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est la 31e édition du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges, Jacques, avec pour thème cette année le climat.
Oui, être géographe pour Jean-François Stazac, c'est regarder la distance avec distanciation. Du coup, il se livre à l'exercice dans Libération en analysant ce que la distanciation sociale imposée par la pandémie a modifié dans nos esprits, en commençant par le terme lui-même. C'est une mauvaise traduction de l'anglais, l'expression datant de la lutte contre la grippe espagnole en 1918. Elle renvoie aujourd'hui à un marquage social, ce que Bourdieu avait étudié comme la distinction. Le langage, le vêtement, les goûts ou le quartier de résidence. À la fois symbolique et sociale, la distanciation est aussi matérielle et culturelle. Les places occupées dans l'espace ont une fonction, elles tracent une frontière entre la distance personnelle et la distance sociale. La première dessine autour de nous une bulle dans laquelle ne peuvent entrer sans susciter de malaise que les plus proches. La seconde s'impose aux personnes avec qui on a des rapports plus distants. Connaissances et collègues de travail, par exemple. La distanciation requise dans le cadre des gestes barrières standardise une nouvelle norme. Elle exerce une pression sur le corps social qui n'est pas sans créer un certain malaise dans l'espace public et surtout, souligne le géographe de l'Université de Genève, elle nous fait prendre conscience que le positionnement des uns vis-à-vis des autres était finement négocié et réglé par le statut social et les circonstances en fonction des usages et du bon sens, et que cela, sans qu'on y pense, n'avait rien de naturel ou d'anodin. C'est le thème de cette 31e édition du Festival de géographie de Saint-Dié, c'est donc le climat. La montagne est un bon poste d'observation du réchauffement climatique. La dernière livraison de la revue L'Alpe est consacrée au développement durable et à la transition écologique. Emmanuel Reynard fait le point en précisant que le massif alpin connaît une grande variété de conditions climatiques, des climats méditerranéens de la Durance ou des Alpes Ligures, aux climats humides et froids des préalpes suisses. Mais dans l'ensemble, les températures y augmentent plus vite qu'à l'échelle globale. Le professeur de géographie physique à l'Université de Lausanne souligne qu'en Suisse, les températures moyennes ont augmenté de 2 degrés en un siècle et demi contre 0,9 au niveau global. L'un des facteurs principaux est lié à la réduction du manteau neigeux qui diminue le pouvoir réfléchissant des surfaces. En moyenne, la neige s'installe 12 jours plus tard et disparaît 25 jours plus tôt qu'il y a 50 ans. Le réchauffement a des conséquences directes sur les écosystèmes. Les espèces animales ou végétales migrent en latitude vers le nord et en altitude vers le haut. Le décalage entre les besoins des espèces et les conditions d'habitat provoque une sélection au profit des espèces moins exigeantes. Les solutions durables passent par la recherche d'un nouvel équilibre entre les dimensions écologiques, économiques et sociales des territoires de montagne, d'où l'importance de l'exploitation agropastorale qui entretient le couvert végétal et dont Jean-Claude Duclos retrace l'histoire longue en montrant comment les communautés alpines d'antan s'organisaient et géraient les ressources naturelles. Une leçon qui a inspiré aujourd'hui les gestionnaires des parcs et des réserves en recourant aux éleveurs pastoraux transhumants. Le directeur du musée dauphinois se réfère notamment aux travaux de l'anthropologue Harriet Rosenberg sur la commune d'Abriès dans le Queyras à l'aube du XXe siècle. D'un système égalitariste basé sur l'activité agropastorale et le travail d'une main-d'œuvre nombreuse où les décisions se prenaient en commun, Abriès est passé à la production laitière subventionnée dépendant d'une toute puissante industrie agroalimentaire. Il n'est pas géographe, mais historien. Michelet a arpenté les Alpes en rendant un hommage appuyé au Mont Blanc, cet illustre solitaire. Je ne sais quoi d'énorme, éclatant, en mouvement et qui venait droit à moi. C'était un chaos lumineux. Les éditions Le Pommier rééditent l'un de ses ouvrages les moins connus, La Montagne, qui fait la part belle aux Alpes, sans exclure ses périples dans les Pyrénées. La montagne est pour lui comme une méthode de méditation et d'histoire marchée, souligne Antoine de Bec dans sa préface. Après une longue nuit passée dans les basses vallées, trempée du morfondant brouillard, je vis, 2 heures avant l'aurore, les Alpes déjà roses dans le bleu du matin. Michelet n'ignore pas la dimension hydrographique du réservoir de l'Europe. L'eau, c'est de la vie commencée. Hommage rendu au Rhône, à son cours véhément. Torrent d'abord, fleuve à Genève, repris par les eaux de Savoie, il se refait encore torrent, telle est sa versatilité. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour.
Voilà, à 30 ans après, aujourd'hui, dans les enjeux internationaux, retour en RDA.
Qu'est-ce que la RDA a encore à nous apprendre? Oui, les Allemands célébreront demain les 30 ans de la réunification allemande, ou pour être plus précis, de l'absorption des 5 Länder est-allemands par l'Allemagne de l'Ouest, comme la Constitution a permis à Helmut Kohl de le proposer après la chute du mur, et comme les Allemands de l'Est l'ont majoritairement approuvé dans les urnes en mars 1990. Alors en quelques semaines, c'est une expérience de 40 ans, celle de la RDA qui sera absorbée sans tellement y réfléchir, sans bilan critique ou autocritique. Et si cette histoire-là s'est faite par le haut, elle est désormais de plus en plus investie par les témoignages individuels, familiaux. C'est cette histoire intime de la RDA que nous propose un livre qui est paru aux éditions du Nouveau Monde, La RDA après la RDA, un ouvrage historique et sociologique nourri de témoignages de gens ordinaires, que ce soit les Hineingeboren, les nés dedans, ceux qui ont grandi dans les années 40-50, qui avaient 50 ans déjà à la chute du mur, que ce soit les Wenderkinder, les enfants de la transition, du tournant, nés autour des années 70, des témoignages précieux qui donnent place à l'ambivalence, car la RDA a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Bonjour Elisin Goudin-Steinmann.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en civilisation allemande contemporaine à la Sorbonne Nouvelle. C'est vous qui co-signez la RDA après la RDA avec l'historienne Agnès Arp. Il faut d'abord rappeler en quelques mots le projet initial de la RDA avant que le Parti communiste soviétique s'en mêle.
Oui, en effet, le projet de construire une Allemagne communiste est né dans la résistance contre Hitler. Il y avait dans la zone d'occupation soviétique à partir de 45-46 des conditions très favorables à ce qu'on appelle aujourd'hui une troisième voie, c'est-à-dire des sociaux-démocrates qui étaient globalement moins modérés qu'à l'Ouest, mais farouchement attachés au pluralisme politique et qui souhaitaient construire cette nouvelle Allemagne pour se racheter un petit peu des crimes nazis. Mais très vite, les rémigrés de Moscou autour de Walter Ulbricht ont mis la main sur le parti et c'en était fini du pluralisme.
Ont commencé les purges d'opposants politiques, l'écrasement de la révolte ouvrière de 1953, oui. L'interdiction de toute opposition. Mais ce que les témoignages que vous avez recueillis vous racontent, comme ce sont des gens ordinaires, ni opposants au régime à l'époque, ni fonctionnaires, ce n'est pas ça, ou c'est pas seulement ce qu'ils vous racontent, c'est ce que la RDA avait, selon eux, à apporter à l'Ouest.
Oui, voilà, exactement. Les témoignages et le discours aussi autour de ça montrent que la RDA, on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain trop vite en racontant l'histoire de la RDA que sous l'angle de l'appareil de répression, de la Stasi, alors que, en effet, la RDA, c'était aussi un modèle de société. Donc autour de l'organisation du travail, des rapports entre les femmes et les hommes, du droit au logement, etc. Autant de choses qui auraient pu éventuellement faire partie d'un projet commun si les Allemands de l'Est avaient pu, en quelque sorte, mettre quelque chose dans la corbeille de mariage au moment de l'unification. Ce qui n'a pas été le cas, puisque très vite, toute cette effervescence intellectuelle en 88-89, toutes ces tables rondes confondées partout, ces manifestes consignés, toutes ces réflexions d'intellectuels, de journalistes, etc., n'ont plus été audibles dans l'espace public très très vite.
Mais il y a eu cette réflexion, il y a eu ces débats.
Ça a existé, il y a eu vraiment une chance de construire une troisième voie qui a été à nouveau balayée parce que aux élections que vous évoquiez de mars 90, les Allemands allemands de l'Est ont voté majoritairement pour le parti d'Helmut Kohl et qu'ils lui ont donc donné les mains libres pour agir à sa façon, c'est-à-dire garder le modèle de la RFA finalement, sans rien changer.
Alors que vous écrivez dans votre livre que pour beaucoup d'intellectuels est-allemands, la RFA, l'Allemagne rhénane, c'était ringard avec son modèle de société patriarcale et inégalitaire. Mais qu'en disaient les opposants du système politique est-allemand ? Est-ce qu'ils regardaient tous vers l'Ouest ?
Non, justement. C'était très peu, c'était vraiment loin de leur projet en fait. Ils ne voulaient pas du tout entrer dans le système capitaliste et patriarcal. Ils voulaient essayer de définir une forme de socialisme à visage humain, pour reprendre l'expression consacrée, c'est-à-dire garder les acquis du socialisme, mais les rendre compatibles avec le pluralisme, avec la démocratie. Et donc, ils ne voulaient pas du tout de cette Allemagne rhénane qu'ils jugeaient patriarcale, à juste titre, à bien des égards, hein, si on compare la situation des femmes à l'Est et à l'Ouest.
C'est-à-dire, par exemple ?
Par exemple, l'égalité salariale, par exemple, les femmes est-allemandes ont pu avorter plus tôt. On a financé, je ne sais pas, je pense à une chose, ça peut paraître anecdotique, mais on a financé à l'Est des travaux sur fonds publics de recherche sur le plaisir féminin sexuel. Il n'y a rien de comparable à l'Ouest dans les années 50, absolument rien de comparable. À l'Ouest, jusqu'en 1977, la femme avait le droit de travailler seulement si c'était compatible avec ses obligations dans le mariage. Donc vous voyez, en fait, c'est pour ça qu'il y a cette image un peu de société rétrograde vis-à-vis des droits des femmes.
Elisa Goudin-Steinmann, quel est aujourd'hui le prix politique à payer de cette impensée, du fait que tout ce qui aurait pu être apporté dans la corbeille de mariage, comme vous dites, ne l'a pas été, n'a pas été réfléchi?
Oui, moi je fais partie de ceux qui pensent que le prix politique est très élevé, c'est l'AFD en fait, c'est cette colère, cette
l'extrême
frustration,
droite, voilà,
le parti d'extrême droite qui, même s'il est un peu en crise aujourd'hui, a quand même de grands succès, est représenté maintenant au Bundestag, et cette colère, ce sentiment de dévalorisation globale des biographies, c'est quelque chose qui était vraiment très injuste. Si on avait raconté l'histoire de la RFA uniquement en parlant des juges fédéraux, de la traque contre la route armée fraction de la police, tout le monde aurait dit mais enfin c'est pas que ça la RFA, et il n'y a rien eu de tel pour la RDA. Et pourquoi? C'est vraiment une question qui justifie cette frustration, cette colère et aussi ce sentiment un peu d'injustice collective, vécue collectivement.
C'est vrai que l'AFD majoritairement, on vote à l'Est beaucoup plus pour l'AFD qu'à l'Ouest. Lors des élections du Bundestag, il y a presque exactement 3 ans, l'AFD a rassemblé 21,5% des voix à l'Est, 14% à l'Ouest. Alors il faudrait regarder le détail du vote dans les zones qui seraient les plus touchées par le chômage, les zones rurales abandonnées par les services publics, mais c'est vrai que de plus en plus de chercheurs expliquent ces scores par ce sentiment d'injustice. On peut peut-être rappeler de 3 choses. La Treuhand, par exemple, cette institution chargée de gérer la transition vers l'économie de marché, qui a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, on demande des réparations. Certains demandent des réparations.
Oui. Exactement, ça a fait beaucoup de mal.
Comment
il y a plusieurs choses économiquement qui ont fait beaucoup de mal. La Treuhand, en effet, qui a décidé de vendre les entreprises est-allemandes.
8500,
ouais,
elle les privatisait.
De les vendre, non pas au plus offrant, qui aurait été un critère objectif, moins, mais à la personne qui présentait les meilleures garanties en matière d'emploi. Et ça, c'est très subjectif, du coup, parce que très souvent, ça a été vendu au concurrent ouest-allemand qui s'est empressé de fermer pour éliminer la concurrence. Donc, c'est évidemment une très grande injustice. Le fait d'avoir introduit une parité entre la monnaie est-allemande et ouest-allemande de 1 contre 1, c'était aussi une décision économiquement totalement irrationnelle. Tout à coup, les entreprises est-allemandes, leurs produits étaient incroyablement chers, impossible de les vendre à leurs débouchés traditionnels à l'Est et impossible aussi de les vendre à l'Ouest, que les marchés étaient déjà pris. Donc ça, c'est des injustices qu'on ne peut pas réparer.
Les entreprises sont tombées à 80% dans les mains des Allemands de l'Ouest, mais aussi les instituts de recherche, les entreprises culturelles. C'est vrai qu'on a pas pris en compte les compétences, les carrières des professionnels est-allemands à l'époque. C'est ce qu'ils vous ont dit beaucoup.
Oui, voilà. Ça dépend un petit peu de quel type de compétences, mais pour les chercheurs, par exemple, les ingénieurs, etc., c'est très, très clair. Il y a une dévalorisation globale des diplômes assez impressionnante. Et même pour ceux qui n'avaient pas cette histoire de dévalorisation des diplômes, c'est quand même, le chômage était un choc biographique très douloureux. Parce qu'il faut se souvenir qu'il n'y avait pas de chômage en RDA, donc c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, que le travail travail structurer la vie quotidienne, beaucoup plus qu'on ne pourrait aujourd'hui l'imaginer. Et donc, être au chômage, c'était vraiment quelque chose de très, très, très douloureux à vivre pour ces personnes-là.
Dans certaines villes comme Iéna ou Chemnitz, 30 à 40% des habitants en âge de travailler sont retrouvés au chômage dans les années ou les mois parfois qui ont suivi la réunification, avec donc cet isolement social inédit. Des premiers foyers pour sans-abri sont apparus à la réunification aussi. Et puis vous expliquez, vous racontez, Elisa Godin-Steinmann, vous avez rencontré aussi une personne, Marion, qui au début des années 90 faisait un stage dans le secteur de l'aide à l'enfance. C'est édifiant de raconter comment des gens ont fui vers l'Ouest en abandonnant leurs enfants.
Oui, c'est un des marqueurs de la très grande précarité dans laquelle ils se retrouvaient plongés d'un coup, avec au sommet de quitter leur logement, se retrouvant au chômage, parfois les couples vacillaient, enfin vraiment une très très grande précarité, au point que certaines familles, en effet, qui n'étaient pas des familles à problème, pourtant au départ, se retrouvaient à abandonner leur enfant. Les services d'aide sociale à l'enfance ont été tout à coup totalement débordés. Il faut imaginer, c'est un exercice qu'on peut tous faire, imaginer que dans 2 ans, l'endroit où vous travaillez n'existe plus tout à coup, alors que vous y avez travaillé pendant des décennies, que ça vous paraissait stable et tout s'écroule d'un coup. C'est vraiment très dur.
Il y a évidemment tous ceux qui sont partis vers l'Ouest pour la liberté et tous ceux qui sont partis vers l'Ouest parce qu'ils ont eu peur. Alors qu'Helmut Kohl promettait avec la réunification des paysages florissants, on a vu au long terme que c'était difficile et qu'aujourd'hui on aboutit à des discours du type avant d'intégrer les migrants, commencer par nous intégrer nous, c'est ce que disent les Allemands de l'Est. Pour conclure, Elisa Godin-Steinmann, la question de l'état de droit, elle ressort dans votre livre. On en parle beaucoup aujourd'hui pour la Pologne, la Hongrie, mais cette phrase qui sonne très étrangement aujourd'hui, notre problème n'était pas d'adopter l'état de droit ouest-allemand, notre problème c'était que nous voulions la justice, c'est ce qu'avait dit une figure de l'opposition est-allemande en 91.
Oui, voilà, et à l'inverse, on a beaucoup discrédité la RDA en parlant de Unrechtstaat, c'est-à-dire d'état de non-droit, alors que personne, à ma connaissance, ne parle par exemple de l'Empire wilhelminien qui a fait un génocide en Namibie, qui a participé au déclenchement de la Première Guerre mondiale, qui a traqué les sociodémocrates comme d'un état de non-droit. Donc c'est vraiment une volonté de dévaloriser très clairement la RDA. C'est pas un concept scientifique, ce concept-là.
Voilà, il faut remettre de l'ambivalence en tout cas dans l'histoire et dans les récits. La RDA après la RDA, c'est le livre que vous faites paraître avec Agnès Harp aux éditions du Nouveau Monde. Merci beaucoup Elisa Godin-Steinmann. Bonne journée.
Merci beaucoup.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
L'analyse de l'actualité internationale, Christine Ockrent.
Tout va si vite. Comment comprendre les palpitations d'un monde où tant de protagonistes interviennent et plus seulement les États, où tant d'enjeux s'entrechoquent, où tant de progrès et de reculs s'entremêlent? Plus que jamais, écoutons les meilleurs experts en France et ailleurs.
La pression monte pour trouver un vaccin contre la Covid-19. La Big Pharma travaille sans relâche, les laboratoires sont au coude à coude. Qui gagnera la course? Affaires étrangères, ce samedi à 11h sur France Culture et sur franceculture.fr. Œil de biche, chevelure de jais, robe noire et mains papillonnant comme des sémaphores, Juliette Gréco incarne la chanson française qui a la poésie dans la peau.
Déshabillez-moi.
Gréco, reine de la nuit, a tiré sa révérence et nous l'écoutons en 2001 ronronner comme une tigresse au micro d'Hélène Azéra. Je suis faite comme ça, Gréco, à voix nue, du lundi au vendredi à 20h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Je suis faite comme ça.
Vous écoutez France Culture dans un instant. Bientôt, il sera 7h. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon. Bonjour à toutes et à tous.
Votre humeur du jour, Guillaume, les fachos savent plus comment s'habiller.
Mais oui, je vous demande de compatir, Julie. C'est de plus en plus difficile d'être un fasciste, un suprématiste, sur le plan vestimentaire en tout cas. Je l'ai appris dans Libération aujourd'hui. La marque de polo Fred Perry a pris il y a quelques jours une décision inédite. Cette marque m'a appris le quotidien, a décidé de ne plus vendre l'un de ces modèles qui étaient devenus le vêtement préféré des nazillons américains, le polo Black Yellow Yellow. Alors derrière cette information, deux informations. La politique du vestiaire, c'est quelque chose de connu. Hein. Le crop top, ce débardeur qui dévoile le nombril féminin est en passe par exemple de devenir un vêtement politique. Cela fait des années par ailleurs qu'un pull couleur pastel porté sur les épaules vous classait plutôt à droite. Hein. Vous savez, tendance plutôt Bruno Le Maire, tandis que les dreadlocks vous classaient carrément à gauche, tendance zadiste. Eh bien, La créature fascistoïde a aussi son uniforme. Il y a eu différentes époques vestimentaires, hein, depuis les chemises brunes. Je dis, vous êtes trop jeune, mais il y a quelques années, les fachos se singularisaient par des boots Doc Martens, des blousons Bombers, et bien entendu le cheveu ras, un style vestimentaire qui est devenu franchement étonnant lorsqu'une icône gay, Jimmy Somerville, chanteur des Bronski Beats et des Communards, interprète de Small Town Boy, une chanson consacrée aux persécutions dont a été victime un jeune gay dans une petite ville, s'est lui aussi mis à porter un bomber des Doc Martens. Alors les origines de la mode sont toujours difficiles à situer, mais depuis les années 1990, le vestiaire fasciste a quelque peu évolué, avec une époque discrète, où il était principalement question de ne pas se faire remarquer. Je mets de côté, bien entendu, les fascistes en costume, lesquels relèvent encore d'une autre catégorie, il faudrait leur consacrer une humeur à part. La réapparition du Fred Perry parmi les suprématistes blancs aux États-Unis est une vraie surprise. Elle signe la persistance d'une mode facho. D'ailleurs, c'est un oxymore, puisque la mode n'est généralement pas un uniforme, mais au contraire une manière de se singulariser. Maintenant que les Fred Perry Black, Yellow, Yellow n'existent plus, en tout cas ne seront plus vendus, comment les fascistes pourront-ils s'habiller ? Eh bien, je propose, après le mois du blanc en janvier, un mois du brun.